Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un passage dans l'Écriture, dans le livre des Actes des Apôtres. Alors c'est un sujet qui peut-être n'est pas très très connu de pas mal de monde, et pourtant il est important parce que il fait partie des événements fondateurs de l'Église chrétienne. Alors, livre des Actes des Apôtres, chapitre 2 et verset 1er. Alors vous allez, pour ceux qui sont familiarisés, reconnaître immédiatement le propos. Alors on va le lire d'abord. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'eut lieu, la multitude accourut, elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun ? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs, et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, dans les derniers jours, dit Dieu, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Voilà, que Dieu nous accompagne et nourrisse notre pensée, notre cœur dans la foi à travers ce récit dans le livre des Actes des Apôtres, sachant que ce livre des Actes, c'est en quelque sorte le livre d'histoire de l'Église première, de l'Église primitive, les actions, les faits, les paroles, les gestes, nous pourrions dire, eh bien des apôtres, de ceux qui ont pris la suite de Jésus pour annoncer l'Évangile avec le même accompagnement, c'est-à-dire des signes, des prodiges, des miracles. Et il y a quelque chose de tout à fait interpellant à travers ce chapitre 2, c'est que ce n'est tout simplement que la réalisation de ce que Jésus avait promis à ses disciples avant, de remonter dans le ciel, avant son ascension, où il avait fait des promesses dans l'évangile de Marc, par exemple, ou dans l'évangile de Luc, également dans Jean, où il y avait cette promesse tout à fait particulière, que, à travers cette manifestation du ciel, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, il y aura ceci, il y aura cela, entre autres la guérison des malades. Mais il y a cette parole, ils parleront de nouvelles langues. Alors, c'est vrai que ça pouvait paraître assez difficile à saisir et à comprendre pour les disciples, parce qu'il fallait passer par l'expérience. Et le texte que nous avons devant les yeux, c'est véritablement une expérience de foi. Et c'est important de le souligner, peut-être parmi nous, eh bien, il y a des amis ou tout simplement des chrétiens qui ont entendu parler du baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme cela qu'on l'appelle, ou effusion du Saint-Esprit sur leur vie, mais qui n'en ont jamais fait l'expérience, qui l'ont constaté chez d'autres, mais qui n'en ont pas fait finalement, eh bien, qui ne l'ont pas expérimenté. Voilà, on peut dire ça comme ça. Et ça fait partie finalement, eh bien, d'une chronologie où Jésus avait demandé à ses disciples, les fidèles, de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui viendrait. Alors bien sûr, quelle différence peut-on faire avec tout ce qui nous est dit sur le Saint-Esprit, sur l'expérience du Saint-Esprit, sur l'effusion du Saint-Esprit, être rempli de l'Esprit, prophétiser par l'Esprit, enfin, c'est très varié tout cela. Eh bien, c'est justement ce que Jésus dira, interpellé par ses disciples, à un moment donné dans l'évangile de Jean, il dira « Mais moi je vous enverrai le Consolateur ». Et notez bien que le Saint-Esprit est appelé le Consolateur, celui qui console. Et ce n'est pas pour rien, parce que comme Jésus devait partir, il devait remonter au ciel, il y avait besoin, eh bien, d'un Consolateur pour les croyants. « Je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous conduira dans toute la vérité. » Et avec cette particularité, en disant ceci, eh bien, il viendra vers vous, le monde ne le connaît pas, mais vous, vous le connaîtrez, vous le connaissez. Et il ne sera pas seulement avec vous, et la grande révélation, c'est qu'il sera en vous. Ça, c'était ce que Jésus disait à ses disciples. L'ont-ils compris ou non? Mais toujours est-il qu'ils ont retenu l'invitation et le rendez-vous. Parce que, au moment où Jésus est remonté au ciel, eh bien, les disciples ont bien observé, ils ont bien obéi. Ils sont restés à Jérusalem et ils ont attendu le jour qui aujourd'hui, eh bien, nous l'appelons la Pentecôte. C'était déjà une fête juive. Mais là, il y a quelque chose de particulier, c'est que jusqu'alors, le Saint-Esprit avait accompagné les croyants dans l'Ancien Testament. Durant la vie de Jésus, Saint-Esprit était là, parce que quand on voit la manifestation de puissance et de surnaturel qui était là répandue sur le peuple à travers la prédication de Jésus, et même par les disciples, parce que il les a envoyés aussi, pour eh bien non seulement prêcher, mais également faire la démonstration de la puissance de Dieu, on peut dire que le Saint-Esprit était avec eux. Mais il y a... Dans la chronologie et les événements, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin, c'est que non seulement le Saint-Esprit est en nous, il est avec nous, pardon, mais il est en nous. Dans le principe même de la nouvelle naissance, on ne peut naître de nouveau que si véritablement le Saint-Esprit est avec nous. Autrement, c'est pas possible. On restera peut-être un croyant, un religieux, si vous voulez, mais il s'agit de la vie spirituelle. Et la vie spirituelle, c'est elle qui préside la nouvelle naissance. Et par-delà la nouvelle naissance, il y a une autre étape que l'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit, que nous allons détailler dans un instant, et qui nous ramène au premier jour, le jour de la Pentecôte, où les disciples étaient tous ensemble à attendre ce qui leur avait été promis, et ils occupaient le temps à prier, puisque dans le chapitre premier, il nous est dit qu'ils étaient 120, ils étaient nombreux, il y avait même la mère de Jésus, donc Marie, et ils attendaient, ils priaient, et voilà que l'événement va se produire. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, rassemblés. Croyez bien que la prière a une efficacité, par le fait que quand des hommes et des femmes se retrouvent ensemble pour prier, eh bien, il se passe toujours quelque chose. Alors, il est survenu un phénomène, on peut dire cela comme ça, si on ne trouve pas d'autres mots. Quelque chose de soudain, alors qu'ils étaient en recueillement, qu'ils priaient, qu'ils louaient Dieu, je ne sais. Alors il nous est dit tout à coup, il est venu du ciel un bruit. Voilà. Des bruits du ciel, ne pas confondre avec le tonnerre, l'orage et tout ce que vous voudrez, mais c'était pas quelque chose de naturel. Un bruit venant du ciel qui ressemblait, parce que c'est la signification du texte, comme celui d'un vent impétueux. Vous savez que quelquefois nous sommes surpris, hein, surtout au bord de la mer, hein, et cette semaine en particulier, à quelques séquences, eh bien nous avons eu un vent violent. Hein, et on l'entend, et on se dit, ça nous interpelle, alors on regarde par la fenêtre, et voilà, on se dit, il y a vraiment beaucoup de vent, c'est un coup de vent tout simplement, donc il est question d'un vent impétueux, quelque chose qui bouleverse, quelque chose qui, en effet, fait voler tout en l'air. Hein. Et il nous est dit que ce vent qui venait du ciel a rempli la maison. C'est-à-dire que ça vient de l'immensité pour se concentrer dans un endroit, et pas n'importe lequel, là où il y a des hommes et des femmes qui prient. Toute la maison où ils étaient assis. Vous remarquerez qu'on n'a pas changé les habitudes. Quand on prie, ou quand on écoute comme vous le faites cet après-midi, on est encore assis. À moins que vous préfériez vous lever, et que moi je m'assieds. Mais bon, hein, on va vous laisser en repos. Mais toujours est-il que, concentration, voilà ce vent qui vient et qui devait être certainement quelque chose d'assez impressionnant, va se concentrer là où ils sont assis dans la prière, dans cette maison. Et, chose assez étonnante, c'est que cette manifestation s'est retrouvée très peu dans l'histoire de l'Église, mais toujours est-il que faut le croire, hein, et peut-être, eh bien, nous retenons finalement le fait visible, hein, non seulement un bruit, mais également, en effet, l'apparition de flammes semblables à des langues de feu, qui apparurent, tous ceux qui étaient là, ils ont certainement pas vu ce qui se passait au-dessus de leur tête à eux, mais en tous les cas, celles du voisin, comme des flamèches, hein, je suppose, qui étaient dispersées, disséminées. Alors, elles sont apparues, elles étaient séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Comment expliquer ce phénomène? Sinon, eh bien, la présence manifeste de Dieu au milieu de cette assemblée de prières. Et là, à ce moment-là, pour chacun de ceux qui étaient donc rassemblés, la constatation, enfin, le témoignage est rendu, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais dans la plénitude, parce que c'est le mot qui va avec, hein, plénitude remplie du Saint-Esprit. Comment cela pouvait-il se manifester, tout simplement à travers ce qu'il nous est raconté ensuite, l'explication, et la preuve de cette plénitude, c'est trouvé, expliqué par le fait de parler en d'autres langues. Ils se sont mis à parler. Dans le langage théologique, on appelle ça la glossolalie. Voilà. Parler une langue que l'on ne connaît pas. Alors, ça pourrait peut-être sembler être de l'histoire ancienne, mais je voudrais ouvrir tout de suite la parenthèse pour dire que depuis ce premier jour de la Pentecôte, à travers tous les siècles, c'est-à-dire vingt et quelques siècles de christianisme, ce phénomène s'est retrouvé de ci, de là, quelquefois à travers une intensité, eh bien, très importante, quelquefois ces flammes où se parler en langue s'est trouvé dans des petites communautés qui avaient gardé la foi à croire que c'était toujours possible, et dans des temps de réveil, quelquefois, eh bien, une grande partie du monde a été véritablement visitée. Alors, ça fait partie des choses qui demeurent, qui restent, en quelque sorte, eh bien, l'expérience de l'Église chrétienne. Pas n'importe quelle Église chrétienne, ceux qui sont restés fidèles aux promesses de Dieu, qui gardent ces promesses, et qui sont à même de les expérimenter, eh bien, à tout moment. Soit personnellement, individuellement, ou alors en communauté. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et chose surprenante, c'est qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Est-ce que cela nous rappelle un autre phénomène dans l'Ancien Testament, la tour de Babel? Oui. Mais à l'inverse, parce que là, c'était fait dans le livre des Actes des Apôtres pour rassembler, alors que dans l'histoire de la tour de Babel, c'était pour les séparer. Parce que les dispositions n'étaient pas les mêmes. À Babel, c'était unissons-nous et que nous puissions faire un nom sur la terre et que notre sagesse, notre intelligence, nos capacités humaines, eh bien, nous allons faire une tour qui montera jusqu'au ciel. Véritablement, la manifestation est la déclaration d'orgueil de l'humanité qui va se perdre. Donc Dieu les sépare, il leur donne des langues à chacun. Et puis là, dans le cas du livre des Actes des Apôtres, c'est pour rassembler un nouveau peuple, un peuple qui autrefois était perdu, égaré dans toutes sortes de choses, loin de Dieu en tous les cas. Et Dieu va faire passer ces hommes individuellement, les uns avec les autres, les uns après les autres, à travers le temps, à travers l'espace, leur faire passer ces expériences tout aussi nécessaires de se repentir de leurs péchés, de se convertir à Jésus-Christ, de naître de nouveau. Le Saint-Esprit sera avec vous, mais maintenant la dimension est encore supérieure. Il sera même pas seulement avec vous, mais il sera en vous. C'est la Pentecôte. Et ils se sont mis à parler dans d'autres langues. Ça a dû faire un drôle d'effet, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je voudrais vous encourager, parce que tout le monde peut être baptisé du Saint-Esprit. Peut-être qu'il y en a qui disent « Mais moi, j'ai été oublié dans la distribution. » Mais non, vous n'êtes pas oublié. Ce n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que nous avons des qualités que Dieu va nous baptiser du Saint-Esprit, que nous sommes un bon garçon ou une bonne fille. Mais le baptême du Saint-Esprit, c'est une grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau que Dieu veut donner à tous ceux qui croient. À partir du moment où je crois que c'est possible, eh bien le Seigneur nous baptise, vous baptise du Saint-Esprit si vous le désirez. C'est une question de le recevoir dans la simplicité du cœur. Parce qu'à partir du moment où on commence à réfléchir, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne comprends pas ceci, je ne comprends pas cela. Jésus nous enseigne bien que si nous ne revenons comme des petits-enfants, nous ne rentrerons pas dans le royaume de Dieu. Donc, il n'est pas question de perdition ou de salut, là. Mais il est question justement de recevoir ce que Dieu nous propose. Et c'est pour tout le monde. Et là, c'était vrai hier à la Pentecôte des Juifs, mais c'est vrai encore pour nous aujourd'hui. Et c'est vrai pour l'instant dans lequel nous sommes et nous partageons que le Seigneur peut baptiser du Saint-Esprit. Je souhaite que cet après-midi, le Seigneur nous visite, si vous le croyez. Autant que je puisse m'en souvenir, il y a quelques années, lorsque je prêchais un jour de Pentecôte à Angers, je prêchais un texte semblable à celui-ci. Chose extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, après avoir fini de prêcher au moment de la louange, 5-6 personnes spontanément ont été baptisées du Saint-Esprit. Formidable. Le plus merveilleux, c'est lorsque nous faisions des colonies de vacances. On avait une centaine d'enfants et on les rassemblait tous. Et vous savez, les enfants, ils sont moins compliqués que nous. Hein. Vous leur annoncez Jésus, ils croient en Jésus. Vous leur annoncez les miracles de Jésus, ils sont guéris, on l'a vu. Hein. Vous leur annoncez le baptême du Saint-Esprit, ils se mettent tous à parler en langue. Et là, on voyait de groupe en groupe, hein, des groupes de 8, de 10 enfants. À un moment donné, il y en a un qui commence à parler en langue et toute la pièce, tous les enfants se mettaient à parler en langue. C'est extraordinaire, des choses comme ça. Vous voyez que c'est encore possible ? C'est vrai, hein? C'est vrai. On se souvient de notre première expérience du baptême du Saint-Esprit. Ouais. Si je peux me permettre quelques mots de témoignage personnel, je venais juste de me convertir, me faire baptiser. J'étais tout jeune à l'époque, maintenant je suis très vieux. Mais c'est pour vous dire que le temps a passé. Mais une chose qui est certaine, c'est que je me souviens, j'avais une vingtaine d'années. Et là, j'étais pas bien du tout, j'étais malade. Et en pleine nuit, comme ça, j'étais réveillé et je me suis mis à parler en langue, comme ça. Dieu m'a réveillé pour que je me mette à parler en langue. Au départ, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'avais prié pour l'avoir, et puis au moment où ça venait, j'y croyais plus. Mais bon, la nature est ainsi faite. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux me donner une preuve que c'est bien le baptême du Saint-Esprit, eh bien la langue que je parle, eh bien change-la. Le Seigneur l'a changée une fois. J'étais dur, hein, incrédule. Oh, il l'a changé 2 fois, 3 fois. Et là, j'ai dit, le matin, j'avais prié toute la nuit parce que j'étais transporté de joie et c'est formidable. C'est une très, très belle expérience. Et le matin, eh bien, vraiment, j'étais convaincu que le Seigneur m'avait baptisé du Saint-Esprit. Alors, je suis allé voir mon pasteur. Puis, je lui ai dit, écoutez, il m'est arrivé quelque chose. Je voudrais que vous constatiez, parce que, attention, hein, faut que ça soit homologué. Hein. Alors, je suis allé le voir. Il prie à côté de moi et me dit « Bah, bien sûr que t'es baptisé du Saint-Esprit. » Quelquefois, on se rend malade pour pas grand-chose. Hein. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, moi, je vous le dis. Si vous priez, que vous croyez à la promesse de Dieu, que vous faites confiance au Seigneur et que vous commencez à balbutier peut-être quelques mots, ne vous arrêtez pas. Parce que souvent, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés et qui se sont dit « Mais qu'est-ce que je dis? Je comprends pas ce que je dis. » Ben, vous allez pas comprendre, ça c'est sûr. Et parfois, ça peut être un frein. Hein. Alors voilà ce qui nous est dit. « Ils se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Alors, on va voir comment ça s'est passé après pour l'environnement. Parce que ça, c'était quelque chose d'acquis pour les disciples, mais les autres. « Il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, des hommes de foi, naturellement, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui eut lieu, à travers le vent, à travers le parler en langue, à travers le bruit que ça a dû faire, parce que en Orient, c'est assez bruyant, hein, n'est-ce pas ? Alors la multitude des gens qui étaient à l'extérieur de cette chambre haute, de ce lieu de rencontre de prière, la multitude accourut, et elle fut confondue, ça c'est le terme qui est employé, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Stupeur. Imaginez-vous, il y avait des gens qui venaient pour cette fête de la Pentecôte à Jérusalem, ils venaient pour adorer Dieu naturellement, et là il s'est passé quelque chose dans ce milieu que l'on appelait, on les appelait pas encore comme ça, les premiers chrétiens, mais les disciples de Jésus. Jésus avait tellement fait parler de lui. Il avait remué sans dessus dessous la nation d'Israël, et particulièrement la ville, la capitale, la ville sainte de Jérusalem. Alors les gens étaient venus donc à l'occasion de cette fête, et à ce moment-là, eh bien, les gens, en entendant le bruit, se sont dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre haute? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison ?» Ils se sont approchés, et les gens, ils disaient « Mais comment ça se fait ? Nous entendons ces gens qui prient, qui louent le Seigneur, qui adorent Dieu, et nous les entendons parler dans notre propre langue. » Ouais, parce qu'il y avait des gens qui venaient de tous les horizons, et ils étaient interpellés. Parce que chacun donc les entendait dans sa langue maternelle. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ouais. Comment se fait-il qu'on puisse faire des choses pareilles? Comment se fait-il que les gens que vous connaissez, pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit au milieu de nous, comment se fait-il que vous avez des frères et des sœurs, que vous avez des amis, que vous connaissez bien, dans la vie normale, et que si vous ne savez pas qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit à un moment, il vous invite à un moment de prière et vous les entendez parler en langue, une langue que vous ne comprenez pas. Si vous voulez en avoir un peu la mesure, vous venez le dimanche matin à un culte et vous verrez qu'il y a des hommes et des femmes qui restent tout à fait normaux. Hein, on reste tout à fait normaux, normal. Et là, à ce moment-là, vous les entendez parler une langue. Et c'est quelque chose de spontané. Ça, c'est étrange, vous les regardez. Moi, la première fois que j'ai eu ça à côté de moi, je me suis dit, mais ça doit être un juif, ou ça doit être un grec, ou ça doit être un romain, ou je ne sais pas quoi. Hein, c'est troublant. Et puis après, on m'a expliqué. Ça, c'était les tout débuts. Hein. On m'a expliqué, on m'a dit, oui, mais regarde dans ta Bible. Si tu vérifies, tu verras que dans l'Évangile, c'est une promesse. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est une concrétisation. Et puis si tu regardes un peu plus loin, tu verras que aussi dans d'autres parties de la Bible, eh bien, le parler en langue, ça existe. Et je me suis dit à ce moment-là, mais je lui ai dit, mais alors donc, c'est vrai? Ce que la Bible dit, c'est vrai, c'est miraculeux, mais c'est vrai, c'est une réalité. Alors, ils étaient donc dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns et les autres, les mots qui suivent, mais ces gens qui parlent ne sont pas tous galiléens, parce que la plupart des disciples de Jésus venaient de Galilée, et en Galilée, il y avait un dialecte qui probablement devait être différent de celui de Judée. Et ils les ont reconnus, ils se sont dit, mais comment se fait-il que ces Galiléens, qui n'étaient quand même pas une population qui était réputée pour avoir fait de longues études, hein, ou de grandes études, surtout en linguistique, hein, ils parlaient leur langue, c'est tout. Hein. Alors là, ça les a véritablement bouleversés, ils ont été sensibilisés par le fait de voir des gens simples, souvent sans instruction, eh bien, parler, dont nous allons donner la définition dans quelques instants, parler des choses qui sont merveilleuses et des choses qui nous parlent du ciel. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue, dans notre langue maternelle? Alors il y avait toutes les populations inimaginables. Il y avait des gens qui venaient de Parthe. D'autres, c'était des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitaient, eh bien là, dans la région d'aujourd'hui, l'Irak ou l'Iran, la Mésopotamie, la Judée, naturellement, c'était Jérusalem, hein, la Cappadoce, au nord de la Palestine, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, c'est-à-dire les régions de Turquie actuelle, l'Égypte, donc au sud, le territoire de la Libye, là c'est pareil, un voisin de l'Égypte, ceux qui sont venus de Rome, ah oui, les Romains, vous vous rendez compte, ils étaient partout, c'était l'occupant à l'époque, hein. Et puis les Juifs, et puis les prosélytes, ceux qui étaient devenus Juifs, étant bien finalement et bien des étrangers, mais qui avaient accepté le judaïsme. Il y avait des Crétois, il y avait des Arabes. Comment les entendons-nous, disent-ils, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Quand nous parlons en langue, nous ne disons pas n'importe quoi, même si nous ne comprenons pas ce que nous disons. Paul évoquera la langue des anges. C'est une langue céleste, c'est une langue spirituelle. Voilà. Et quand nous parlons en langue, nous racontons les merveilles de Dieu. Et ce que la population extérieure à cette chambre haute entendait, elle entendait les merveilles de Dieu. Elle entendait parler du ciel. Et il n'y a rien de plus convaincant quand le ciel nous parle. C'est bouleversant. Nous avons une foule de témoignages encore aujourd'hui de gens sympathisants qui viennent dans nos lieux de culte, qui viennent, qui rentrent, qui sont là au milieu de nous, et à un moment donné, il y a un parler en langue. Un parler en langue. Et la confession que nous avons souvent entendue, c'est que la personne venant de l'étranger comprenait le parler en langue de celui qui était rempli du Saint-Esprit. Et la confession qui est donnée, la confession qui est dite, en disant « mais je suis complètement bouleversé, je suis convaincu que Dieu existe, parce que ce que je viens d'entendre, eh bien, ce sont des choses ineffables. » Et très souvent, celui qui avait entendu ce qui était dit dans ce parler en langue, ont souvent confessé, cet homme ou cette femme qui a parlé en langue a dit les choses dans un langage, dans le langage de mon pays, dans ma propre langue d'une manière parfaite, dans une diction parfaite. C'est surnaturel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront en d'autres langues. Ce ne sont pas des langues apprises, comme l'anglais, l'allemand, le chinois et tout ce que vous voudrez. C'est une langue qui vient du ciel, qui est donnée spontanément à celui qui croit. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul va enrichir la notion de se parler en langue, mais pour nous personnellement, il dira dans 1 Corinthiens, chapitre 12, si ma mémoire est fidèle, il dira ceci, « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. » Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors je voudrais simplement vous signaler, au cas où vous en auriez besoin, dans ce petit rappel, que lorsque nous sommes mal pris dans la vie, lorsque nous sommes fatigués, épuisés, démoralisés, lorsque nous sommes sans force physiquement, moralement, spirituellement, vous avez un moyen que Dieu nous a donné, nous les chrétiens, c'est de parler en langue, puisque celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Combien de fois nous avons eu recours à ce processus miraculeux, surnaturel que Dieu nous a donné pour pouvoir assumer notre vie et assumer notre tâche. C'est quelque chose de formidable. On vient devant Dieu, souvent on est exsangue, et là, après avoir passé un temps de prière, même si je ne comprends pas ce que je dis, je me remplis du Saint-Esprit, et au moment de se relever, alors à ce moment-là, eh bien, on sent qu'on a été fortifié. Est-ce que les chrétiens n'oublieraient pas de parler en langue pour s'édifier eux-mêmes? Quelquefois, on voit l'Église qui n'en peut plus, qui est fatiguée, mais Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la piété et à la foi, tout ce qui contribue finalement à notre vie. Parlez en langue, priez en langue, approchez-vous du Seigneur en parlant avec ce que Dieu vous a donné. Alors, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Ce sont les merveilles que Dieu nous donne. Alors naturellement, avec l'amplification des dons spirituels, il y a naturellement eh bien, le parler en langue avec son interprétation. Je ne veux pas rentrer dans un exposé théologique, mais la prophétie aussi. Naturellement, ça fait partie des dons vocaux. Mais bon, ça c'est une autre affaire que ce qui nous intéresse cet après-midi, c'est en quelque sorte le signe initial, le parler en langue, c'est important. Donc, ils étaient dans l'étonnement, ça fait deux ou trois fois que nous lisons qu'ils étaient dans l'étonnement. Mais comment les gens pourront-ils le comprendre? C'est ce que Jésus dit, je vous enverrai le Consolateur que le monde ne connaît pas. C'est pour ça qu'ils sont dans l'étonnement, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais pourquoi rester dans l'étonnement et pourquoi rester dans l'ignorance quand on a la possibilité de savoir? Et pour savoir, il faut s'approcher de Dieu, croire à ses promesses et lui demander de faire l'expérience. Alors, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns et les autres, que veut dire ceci? La grande question, que veut dire ceci? Alors vous savez, devant les choses qui ne sont pas comprises par les hommes, il y a deux choses, c'est l'incrédulité, ou accessoirement le doute, mais l'incrédulité, je ne crois pas parce que je ne comprends pas. Et puis il y a une deuxième façon de dénigrer, c'est la moquerie. Certains ont eu l'audace de dire, mais ils se moquaient en disant, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Alors, je ne sais pas, c'était le matin, le jour de la Pentecôte, il devait être certainement 9h, quelque chose comme ça. Il faut déjà avoir très soif pour déjà dès 9h le matin prendre un petit peu le breuvage dont nous avons parlé il y a un instant. Hein. Voilà, ou alors c'est une fin de nuit. Voilà, ils se sont mis à dire, mais ils sont ivres. Oui, ils sont ivres, vous avez raison. Mais ils sont remplis d'une ivresse qui est une sainte ivresse, qui est une ivresse qui réjouit, non pas comme le vin, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous réjouit parce que c'est le bonheur, parce que c'est la paix, parce que c'est la sérénité. C'est une vraie, une sainte ivresse. Alors ils ont peut-être raison dans un sens, mais ils ont tort dans l'autre parce que c'était pas du vin. C'était pas de l'alcool qu'ils avaient pris pour être comme ça, pas du tout. Alors Pierre va parler pour exposer les choses, il va dire, il s'est présenté avec les 11, hein, il a parlé, et il leur a dit en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ça, c'est un discours pour remettre les choses, et bien là, remettre l'information. « Ces gens ne sont pas ivres, dira-t-il, comme vous le supposez, parce que c'est une supposition très fantaisiste, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. » Et là, nous revenons dans l'Ancien Testament, parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas une nouveauté. Ça a été une constante à travers toute l'histoire. Bien qu'il se soit manifesté d'une manière magnifique et admirable dans les derniers temps, mais déjà le prophète Joël avait annoncé les choses. Ce qui est extraordinaire dans la Bible, c'est que rien ne vient, mais tout est précédé par des prédictions, des prophéties qui s'accomplissent au temps voulu. Et là, je crois que c'était le temps voulu. Et autant que nous puissions appliquer cette parole du livre de l'Ecclésiaste, où il nous est dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce jour de la Pentecôte, c'était véritablement le temps où Dieu allait faire pour son Église, certainement la plus belle de toutes les choses, les remplir du Saint-Esprit. C'est-à-dire les remplir de la vie divine, les remplir de la vie du ciel, les remplir de la vie esprit, de la vie spirituelle. Alors le prophète Joël, bien longtemps auparavant, avait annoncé comme cela, comme le prophète Ésaïe avait annoncé le Christ, le Messie, les temps messianiques. Mais là, c'est le Saint-Esprit. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, et là, la démonstration sera que vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. » Voilà la manifestation. « Prophétiseront sous l'inspiration de l'Esprit. » Ils parleront de nouvelles langues. Ils diront des choses ineffables. À travers toute l'histoire de l'Église, quand on l'étudie, dans les siècles qui nous ont précédés, on s'aperçoit qu'il y a eu, de temps à autre, ce qu'on appelle des réveils spirituels. Dans les débuts du christianisme, on en est là, dans notre texte. Et puis après, il y a eu tout un jalonnement à travers l'histoire, où il y a eu de redécouvertes de la parole de Dieu de la Bible. Pour autant, ce que nous sommes aujourd'hui, il y a eu un réveil qu'on appelait la réforme. Oui, les huguenots, les protestants, si vous voulez, qui ont redécouvert les textes de l'Évangile, qui ont été conduits par l'Esprit de Dieu à sortir de la tradition de l'Église officielle et de tous ces rudiments, de tous ces dogmes, de toutes ces choses, ces cérémonies Je pense à Luther, je pense à Calvin, qui ont été des hommes qui ont structuré, qui ont enseigné l'Église, mais selon la parole, et qui a donné une terrible séparation de feu et de sang parmi les chrétiens de l'Europe. Ça a été terrible pour cela. Les persécuteurs et les persécutés. Et les persécutés ont tenu à travers tout cela. Et dans un fait que nous connaissons aussi, eh bien, il y a eu aussi des souffles de l'esprit à travers tout ce petit peuple persécuté. Je pense au Camisard dans les Cévennes. C'est un haut lieu, du protestantisme. C'est un haut lieu aussi de la foi. Et on s'aperçoit, il y a eu après une dérive, naturellement, et c'est bien dommage. Mais toujours est-il que, si vous lisez les livres qui relatifs à cette période des Camisards, vous verrez que il y avait des enfants qui parlaient en langue, des jeunes filles qui parlaient en langue, des jeunes gens qui prophétisaient, il y avait des songes, il y avait des visions, toutes sortes de choses. C'était un temps d'exaltation qui était finalement là mélangé avec une persécution à mort. Ouais, les gens n'avaient plus que ça. On brûlait leurs temples, on violait les femmes, on envoyait les hommes aux galères, on les rouait de coups. On les passait au feu, enfin c'était quelque chose de terrible. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un ressaisissement et ils se sont dit, mais nous n'avons plus qu'une chose à espérer, c'est le ciel. Et c'était un temps très très fort, d'ailleurs nous sommes issus de ce courant, en quelque sorte. Mais je crois que dans d'autres époques, il y a eu aussi des manifestations de la Pentecôte, d'une nouvelle Pentecôte. Au début du XXe siècle, deux jeunes filles, aux États-Unis, dans une école baptiste, école biblique baptiste, ont pris ce texte, je voulais te voir raconter, ont pris ce texte, ils ont dit, Seigneur, écoute, elles croyaient à la Bible, naturellement, elles ont dit, voilà, nous allons faire une réunion de prière, nous allons faire un jeûne et prière, et ce texte de Actes, chapitre 2, nous voulons voir si oui ou non, c'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Elles ont pris Dieu au mot, elles ont prié un jour, deux jours, trois jours, des étudiants de l'école sont venus, ils ont prié ensemble, et à un moment donné, eh bien, il y avait un souffle de l'esprit, ils se sont tous mis à parler en d'autres langues. Et vous savez que ce réveil-là, ce réveil du début du XXe siècle, a fait le tour du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des millions et des millions, je crois 5 à 600 millions, de chrétiens que l'on appelle des pentecôtistes. C'est pas le mot que je défends, c'est l'expérience. Des gens qui se sont mis à parler en langue. À travers ces deux jeunes filles qui se sont dit, eh bien maintenant, Seigneur, ils ont parlé en langue, nous devons parler en langue. Remplis-nous du Saint-Esprit. Et ça fait le tour du monde, et c'est venu jusque dans notre pays. Voilà. Alors, on voit que c'est toujours la même chose. Et à quand le prochain réveil pour nous? Parce que ça fait déjà plus d'un siècle, ça fait 120 ans que le réveil du XXe siècle maintenant est passé. Et nous aurions bien besoin d'un réveil pour que les chrétiens d'abord puissent parler en langue, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit au milieu de nous, et que les gens tout autour de nous puissent s'interroger en disant « Mais qu'est-ce que font ces gens à parler une langue qu'ils n'ont pas apprise ?» Eh bien ça, c'est véritablement l'expérience surnaturelle du baptême dans le Saint-Esprit. Alors vos fils, vos filles, vos jeunes gens, vos vieillards prophétiseront visions, songes, sur mes serviteurs et mes servantes, en d'autres termes, si vous comprenez, ceux qui croient en moi. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Et je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Jésus nous dit, mais il faut que je m'en aille. Mais je vous dis que lorsque je m'en serai allé, moi je vous dis que vous ferez encore beaucoup plus de miracles, beaucoup plus grands que ceux que je n'ai fait dans le temps et dans l'espace. Le christianisme s'est caractérisé à travers la manifestation de l'Esprit pour tous ceux et celles qui sont allés auprès, au loin, jusqu'aux extrémités de la terre pour prêcher l'Évangile. Prêchez l'Évangile. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il nous est dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, c'est le verset 21 de notre texte. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Est-ce que pendant quelques instants nous pouvons invoquer le nom du Seigneur? Non seulement pour être sauvé, mais également pour être baptisé du Saint-Esprit? Pour être rempli du Saint-Esprit? pour être renouvelés du Saint-Esprit et connaître cette fraîcheur qui vient du ciel. Parce que le Saint-Esprit est souvent sous l'emblème, présenté sous l'emblème d'une chute d'eau, d'un torrent, des grandes eaux. Alors nous avons certainement dans notre temps, dans une nation en dessèchement, sans repère, qui perd ses principes, nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Et ça me fait penser qu'un jour Jésus s'est rapporté par l'évangéliste Jean, au chapitre 7 de son évangile, il nous est dit que le grand jour de la fête, Jésus a pris la parole. Il a dit ces paroles, « Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vivre couleront de son sein. » Et qu'est-ce qu'il nous est dit après ? Jésus parlait ainsi en vue du Saint-Esprit qui devait venir. Eh bien, permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit, nous ne l'attendrons pas. Il est déjà venu, nous le recevons. Alors que Dieu nous bénisse. C'est une expérience formidable, merveilleuse. Et vraiment, si le Saint-Esprit porte aussi un qualificatif, il nous est dit qu'il est l'huile de joie. Je crois que c'est dans l'Épître aux Hébreux. Il nous est parlé du Saint-Esprit comme l'huile de joie. Alors, je pense que nous avons besoin d'être visités, revisités dans la joie, dans la paix et dans ce bonheur que le Seigneur donne à quiconque invoque son nom. Celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera béni, sera rempli du Saint-Esprit. Alors que Dieu nous bénisse. Et nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ce sont des vérités fondamentales, essentielles. Ce sont des vérités chrétiennes. Et nous croyons, Père éternel, que si les hommes de la tradition religieuse l'ont transformé complètement dénaturé, parce qu'il faut bien le dire, ça n'a plus aucun sens et aucune signification, sinon un symbole mort, nous croyons, Père éternel, que le Saint-Esprit est vivant. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. C'est celui qui agit, c'est celui qui opère, c'est celui qui, en effet, eh bien, réalise aujourd'hui, au milieu des hommes et au milieu de son Église, eh bien, les grandes choses qui viennent du ciel pour la bénédiction, Seigneur, de notre monde. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Merci parce que tu baptises encore du Saint-Esprit. Nous sommes quelques-uns, Seigneur, et nous voulons te demander que tu nous renouvelles dans cette expérience essentielle. Tu vois, souvent, eh bien, nous sommes comme une terre desséchée. Comme nous le chantons, soupirant après l'eau du ciel. Eh bien, Seigneur, nous voulons te demander que tu viennes avec tes fraîches ondées et qu'ainsi, Seigneur, en effet, nous puissions réaliser que celui qui s'appelle Jésus Emmanuel, c'est Jésus avec nous. Ce n'est pas Jésus contre nous, celui qui nous baptise du Saint-Esprit, celui qui ranime la joie dans notre cœur, celui qui nous fait jouir de la paix au fond de nous-mêmes, celui qui nous apporte, Seigneur, le calme et la tranquillité, Seigneur, dans un monde d'agitation, un monde de désordre. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier. Combien, Seigneur, les hommes sont rivés à la terre. Mais comment, Seigneur, et combien tu veux véritablement, tout en restant des hommes de la terre, nous puissions véritablement vivre, déjà avec notre cœur dans le ciel. Oui, nous te bénissons pour cela. Tu baptises du Saint-Esprit. Je te demande de baptiser, Seigneur, du Saint-Esprit. Parce que, Seigneur, nous croyons que ta parole, lorsqu'elle est annoncée, elle crée de la foi. Et parce que la foi est créée dans les cœurs, eh bien, nous pouvons, Seigneur, eh bien, tout simplement aspirer, soupirer, désirer, Seigneur, et te demander dans des simples mots, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Et tu vas le faire. Et nous te remercions. Et puis, Seigneur, nous qui avons été baptisés depuis si longtemps, Seigneur, combien nous avons besoin de renouvellement. Combien de besoins nous avons besoin d'être visités tout à nouveau des fraîches ondées, de l'onction du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, retrouvez véritablement cette fraîcheur, retrouvez cette ferveur, retrouvez cette ardeur, Seigneur. Et puis aussi, nous pourrions ajouter, mais cette candeur d'enfant, parce que, Seigneur, plus nous compliquons les choses, plus nous nous éloignons de toi, mais plus nous venons, Seigneur, dans la simplicité, et simplement saisir tes paroles, garder nos paroles sur notre cœur. Alors à ce moment-là, nous pouvons dire que nous vivons et nous vivons vraiment. Tu bénis, Seigneur, cette parole. Visite-nous maintenant, passe dans les rangs. Passe au milieu de nous, Seigneur, et fais du bien au malade qui attend la guérison, à celui qui est troublé afin que tu lui apportes la paix et le repos. À travers celui, Seigneur, qui soupire après une délivrance ou une libération, eh bien, nous croyons que c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour l'assurance du pardon de nos péchés, c'est toi qui nous convainc que nous sommes vraiment pardonnés en Jésus-Christ. Et puis également, Père éternel, l'assurance de la vie éternelle, la certitude que nous vivrons éternellement. Eh bien, Seigneur, nous pouvons affirmer que nous sommes sauvés à travers le sacrifice de Jésus à la croix du calvaire. Nous le savons et nous le déclarons, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Jésus. Merci pour ta grâce. Amen. Amen.